Europe 1.
Tout être humain a besoin de connaître ses origines pour se construire et aller de l'avant. Savoir d'où l'on vient nous permet de bâtir ce que nous sommes. Mais certaines personnes ne découvrent que très tard les véritables circonstances de leur naissance. On leur a menti parce qu'on voulait les protéger, masquer des drames ou des tabous entourant leurs origines. Elles ont subi les conséquences d'un mystère entretenu par l'administration, par leurs amis ou même par leurs parents. Que se passe-t-il quand ces fondations s'écroulent ? Comment réécrire son histoire après avoir découvert la terrible vérité ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Danielle. Sa vie a basculé le jour où elle a découvert qu'elle était l'enfant d'un viol. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus.
Bonjour Danielle.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous ?
Bien, et vous-même ?
Bien. Bordeaux est un endroit très important pour Danielle, puisque c'est ici qu'elle a appris très tard, à 28 ans, la vérité sur sa venue au monde. Avant cela, Danielle a toujours été au cœur d'un mensonge familial, un mensonge dont elle ressent confusément l'existence dès son plus jeune âge.
Ce mensonge aurait très bien pu vous broyer.
Pas aujourd'hui, mais fut un temps, oui, de la vingtaine à la trentaine. À un moment donné, j'ai cru que ça m'emmènerait dans les tréfonds. J'ai cru que ça m'emmènerait dans l'obscurité la plus complète. J'ai cru que ça m'emmènerait dans des voies, dans les choix de vie que j'ai fait, dans les choses que j'ai fait. J'ai vraiment été très souvent borderline, en fait. Il aurait suffi d'un tellement peu pour que les choses basculent, que des fois j'ai l'impression d'être un peu une survivante.
La mère de Danielle, Béatrice, s'est mariée une première fois à 17 ans à un agriculteur. La vie est rude pour cette jeune femme qui travaille énormément entre la ferme et le ramassage dans des champignonnières. Danielle ne connaîtra pas le premier mari de sa mère car le couple divorce juste après sa naissance. Sa mère rencontre ensuite un autre homme, un homme qui s'avère violent, mais que la petite fille s'imagine être son propre père.
Moi, je suis restée en présence de cet homme jusqu'à l'âge de 7 ans. Ce que je garde de lui, c'est des faits marquants de ma vie, vraiment, parce que d'abord, il y a l'arrivée de mon premier frère, Stéphane, qui naît de cette union-là.
Vous avez 2 ans et demi d'écart.
Ouais. Mes parents se marient, donc moi je prends le nom de cet homme. Mmh. Et puis très vite le cauchemar s'installe, hein, parce que finalement voilà, il y a des situations compliquées qui naissent de leur union, dont en effet des cris, des coups. Donc c'est une période un peu noire qui débute, un peu de maltraitance, dormir dans la cave, dans la chaufferie, au sous-sol, ce genre de choses. Ma mère disait qu'enceinte de 9 mois de mon petit frère Stéphane, elle a le souvenir hein, d'avoir été attachée au pied du lit, frappée. À coups de pied dans son ventre, hein, voilà. Ça, c'est des choses qu'elle nous a rapportées. C'est le fil conducteur de ces 7 années-là. On fait attention tout le temps. On est sur le qui-vive tout le temps. On fait attention à ne pas se prendre une baffe. On fait attention à ne pas faire un pas de travers, à ne pas dire une chose de travers.
7 années de calvaire où Danielle, son frère et sa mère vivent dans la peur de cet homme. Jusqu'à un soir où les choses basculent.
Le bon sens de ma mère, son courage, sa détermination à nous protéger vaille que vaille, hein, son instinct de survie aussi, fait qu'elle nous a protégés d'un drame, je crois, qui aurait pu se terminer en un homme qui tue sa famille, quoi. Moi, c'est une des nuits où je suis punie, je dors au sous-sol, enfin, je suis punie au sous-sol, dans le noir. D'abord, j'entends beaucoup de choses à l'étage, et puis j'entends quelqu'un qui frappe à la porte du sous-sol, la porte extérieure du sous-sol, et j'entends une voix qui m'appelle « Danielle, Danielle ». Alors je dis « Oui », je réponds « Ouvre la porte. » Et je réussis à ouvrir cette porte et ma mère me chope par le bras. Moi, je suis en chemise de nuit, hein. Je dois être en pantoufle, me semble-t-il.
Ouais.
Il pleut des cordes dehors, il fait nuit, il fait froid. Elle a mon frère dans les bras. Et je me souviens de courir à traverser un champ avec de la gadoue. C'est interminable. Et en fait, on va se réfugier dans le noir, trempé, derrière un tas de bois. Et on se cache comme ça. Et dans la foulée, moi, quand je reprends mes esprits, etc., parce que je suis vraiment blottie contre ma mère et que j'ouvre... Je regarde, j'ouvre mon champ visuel, je vois cet homme qui marche avec une lampe, qui crie, qui vocifère « Béatrice !» voilà, etc. Donc nous, moi, je garde des bribes un peu comme ça, terrifiantes, fortes, mais courtes, des séquences un peu comme un mauvais film, vous voyez, voilà. Et puis après, on fuit, on traverse le village, et on fuit et on va se réfugier chez une de mes tantes qui habite le même village. Et donc, ma mère s'organise avec ses frères et sœurs, et puis récupère toutes nos affaires pour qu'elle puisse, elle, redémarrer sa vie ailleurs, seule, avec ses enfants. Donc, je me souviens de l'organisation du déménagement, surprise. C'est-à-dire que cet homme est parti au travail, et quand il est rentré le soir, ma mère, avec ses frères et ses sœurs, avait organisé, en effet, son propre déménagement, pris toutes ses affaires, et puis, voilà, fait en sorte de trouver un appartement, etc., pour pouvoir aller nous mettre à l'abri.
La mère de Daniel divorce une seconde fois. À la suite de cette période noire, la petite Danielle se pose de plus en plus de questions sur l'identité de son père biologique.
C'est justement la succession de ces événements. J'ai le souvenir des partages, des discussions avec les membres de ma famille, le divorce, la séparation, le fait qu'on change de foyer, le fait que tout ça se délie. Finalement, là, j'ai complètement conscience que cet homme-là n'est pas mon père. Il est le père de mon frère.
Personne ne fait jamais allusion aux conditions de votre naissance.
À cette époque-là, non. Le premier élément qui va me mettre un peu sur la piste, mais il arrive bien plus tard, j'ai à peu près 13 ans. Je suis avec une de mes cousines et je ne sais plus, on est en train de raconter des bêtises. Et à ce moment-là, elle me dit, toi, de toute façon, t'es une bâtarde. Et moi, ça arrive tellement à brûle pour point comme ça dans la discussion que je rigole. Je prends ça un peu comme avec de l'humour, voilà. Et puis après, ce mot-là, il a vraiment été comme un déclic, c'est-à-dire qu'il a tourné. J'ai pensé que sous la signification de bâtarde, il fallait comprendre adultère ou enfant illégitime.
D'accord.
Donc j'ai nourri en fait ce terme avec cette signification-là en tout premier lieu.
Alors, vous êtes une enfant plutôt heureuse, épanouie ?
Oui, alors dans mon cadre familial, moi je m'épanouis. Je vis en sécurité avec ma mère, même si après, en grandissant, plutôt avec le collège, etc., je me suis vraiment plus renfermée sur moi-même. C'est-à-dire que je souriais moins. Je ressentais pas le besoin d'être avec les autres. Je répondais très facilement aux provocations qu'on pouvait me faire. Et si j'estimais qu'on me manquait de respect ou que c'était juste pas normal, je me bagarrais.
En fait, à l'adolescence, il y a quand même ce mensonge qui commence à prendre de la place.
À partir de l'âge de 16 ans.
Les questions que vous posez à votre mère à ce moment-là, elles se font plus pressantes.
Oui, je vais en profiter. On est toute seule dans la voiture. Comme ça, plaf, sortie de nulle part. Ah tiens, en fait, voilà. Et donc, elles se font... J'essaie d'être stratège, j'essaie d'obtenir un peu les résultats que je souhaite avoir pour continuer à cheminer, pour mettre les pièces du puzzle. Du coup, j'ai plus la capacité de me dire, ma mère a eu un autre mari. Et donc moi, à cette époque, je ne suis pas pressée plus que ça parce que je sais qu'il est là, parce que je sais qu'il n'est pas loin, parce que ça me permet aussi de le fantasmer, donc de mûrir aussi peut-être un peu une image de père. Voilà, ça me permet aussi de finalement, ça crée un équilibre avec ma mère. Quand ma mère a des défauts et qu'on râle et qu'on se confronte, moi, dans mon jardin intérieur, j'ai un père réconfortant, j'ai un père chaleureux, j'ai un père qui m'écoute, qui comprend et qui crée l'équilibre.
Quelle réponse elle vous donnait à chaque fois que vous lui disiez « Mais qui est mon père ?»
Tu ne peux pas comprendre.
C'est tout.
Ça m'appartient.
Ça m'appartient. Vous acceptiez cette réponse ?
Ah non,
ça ne regarde pas. C'est à moi.
Non, c'est devenu très oppressant. Ça a pris une place capitale. Comment c'est possible que je ne sois pas légitime à obtenir une réponse ?
À 18 ans, Daniel s'imagine toutes les raisons possibles pour lesquelles sa mère lui cache la vérité. Peut-être que son vrai père ne voulait pas d'enfant. Peut-être que sa mère le hait et le prive de voir sa fille. Pour elle, tout est possible. Un jour, alors que sa mère refuse encore une fois de s'expliquer, Daniel obtient contre toute attente qu'elle lui communique le nom et l'adresse exacte de l'homme qui a été son premier mari.
Je lui ai dit ce jour-là, je vais voir mon père.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Elle m'a dit, tu fais comme tu veux. Voilà.
Donc vous décidez d'aller voir celui que vous pensez être votre père,
oui,
avec votre petit copain de l'époque.
Oui, c'est ça.
Comment est-ce que ça se passe ?
L'accueil est normal, hein, voilà. Moi, je trouve un homme qui correspond un peu à mes fantasmes. Alors, je savais qu'il était agriculteur, donc j'avais imaginé grand, un peu côté montagnard, un peu côté terrien, un peu, voilà. Un homme authentique, en fait, voilà, simplement.
Ouais.
Je trouve cet homme en face de moi. Donc mon cœur palpite, hein. Je me dis, ah, je suis sur la bonne voie.
Ouais. Donc, vous le trouvez comment cet homme lorsqu'il ouvre sa porte?
Il aurait pu être n'importe comment, il aurait été le plus beau de la terre.
Ouais.
Donc beau. Mmh. Beau, vraiment, je me sens, mon cœur bat fort, j'ai chaud, je me sens vraiment voilà, en train de vivre un instant dans ma vie très important. Je suis un peu timide hein, d'ailleurs. Quand il arrive, il en impose un peu par sa taille. Donc j'ai l'impression d'être dans un sentiment de petite fille avec son papa, entre guillemets. Mmh. Donc on est accueillis, il nous fait entrer dans sa cuisine. Moi j'avais acheté un pull, voilà, avec mes petites économies de l'époque. Et puis je lui donne et je lui dis je m'appelle Daniel. Et puis je suis la fille de Béatrice. Et donc vous êtes mon père. Voilà. Il est resté droit comme ça, et puis il m'a dit bah, je suis heureux de vous rencontrer. Et il me dit bon, il faut vraiment que vous discutiez avec votre mère, mais moi je vous remercie bien du cadeau, mais faut que vous sachiez que je ne peux pas être votre père. Je ne peux pas enfanter. Je suis dans l'incapacité biologique de le faire. Donc là, c'est un peu. Je me prends une décharge. Voilà, hein, j'ai un fil électrique dans la main et j'ai froid partout. J'en perds la parole, j'ai le souffle court et puis j'ai l'impression de me dédoubler. C'est-à-dire qu'il y a dans cet espace-là, à un moment donné, comme un flottement. Et moi, j'ai l'impression de sortir de mon enveloppe corporelle et de me voir de l'extérieur. De voir une pauvre fille, hein, comme ça, parce que je me suis un peu vue comme ça, qui se dit mais toi, t'es qui? T'habites où? T'es où? Qu'est-ce que tu fous là? Et qu'est-ce qui t'arrive? Je suis vraiment, je suis perdue. Et à mon retour, l'altercation avec ma mère a été extrêmement violente. Mais dans cette violence, j'y suis allée extrêmement fort, mais elle a résisté. Elle n'a pas craqué, elle n'a pas dit « ben voilà ce que tu devais savoir » ou « voilà ce que je ne t'ai pas dit ». Non, non, elle a tenu bon. La forteresse n'a pas cédé. Je me suis sentie définitivement rejetée par un père que je venais d'aller chercher et rejetée par une mère qui me refusait la vérité.
À partir de là, la vie de Daniel va prendre une nouvelle orientation. En plus de la colère, ce refus de vérité entraîne chez la jeune femme des doutes sur la sincérité et l'amour que lui porte sa mère. Daniel éprouve le besoin de tout quitter, de prendre du recul pour vivre loin du mensonge. Alors elle part en Allemagne, à Hambourg, pour être jeune fille au pair.
Tous les jours, j'écrivais une nouvelle page de ma vie à moi. J'ai envie de dire, de celle que moi, je me choisissais, celle que moi, j'assumais, celle que moi, je prenais en toute responsabilité.
Durant tout ce temps, vous laissez de côté votre famille.
Enfin, j'entretiens des relations hein, téléphoniques, etc.
Oui,
hein, voilà.
Mais est-ce que vous continuez à penser à tout ça?
Oui, oui, ça m'arrive. Parce que moi, quand j'arrive à Hambourg, je découvre une vie de famille déjà que j'ai jamais eue. Donc un couple classique qui passe pas ses journées à s'engueuler, dans lequel il n'y a pas de violence. En Allemagne, en plus, dans ce système éducatif, l'enfant est roi, c'est-à-dire que vraiment tout est mis en œuvre pour apporter bien-être, confort, grand respect, etc. Donc moi, je découvre tout ça, qu'on peut en fait avoir des parents qui sont des parents bienveillants, qui sont toujours dans cet apport-là. Ouais. Et je pense une partie de mes blessures un peu par procuration avec cette famille-là.
Vous restez combien de temps en Allemagne?
Je partais pour 6 mois et je suis restée 3 ans et demi.
3 ans et demi,
ouais.
D'accord.
Je me suis découverte vraiment une âme un peu baroudeuse, hein, sac à dos, bus, je vais là, autostop avec des copines, des délires, des tripes j'ai envie de dire rock'n'roll et l'accompagnement qui va avec. C'est une époque où je découvre un peu aussi tout ça et puis où je...
Vous testez la vie?
C'est ça.
Voilà, on dit ça comme ça.
Je goûte la vie, voilà, c'est
ça. Goûtez à... Ou picorer.
C'est ça.
Voilà.
C'est bien dit.
Oui, mais c'est ça, en fait.
C'est ça.
Après l'Allemagne, Daniel part au Canada où elle reste encore 4 ans. 8 ans s'écoulent entre la jeune femme révoltée qui part à Hambourg et la baroudeuse qui revient de Montréal. Daniel a 28 ans quand elle trouve un travail dans une start-up près de Poitiers où elle fait une rencontre déterminante. François, son futur mari, est le père de ses enfants.
Allez, je te regarde. Allez, je t'attrape.
François se souvient d'une jeune fille indomptable qui ne faisait pas confiance aux hommes et qui nourrissait une véritable peur de l'engagement.
Ouais, c'était ça, c'était un peu sauvage, oui. C'est ça, c'est indépendante, sans vouloir s'ancrer, avoir d'attache.
Vous dites à l'époque avoir montré les pires facettes de votre personnalité à François.
Oui.
Tout ça était lié à votre contexte familial.
à mon histoire avec les relations amoureuses déjà, celles que j'ai vues, celles dont j'ai été témoin jeune. Et puis parce que il y avait aussi un sentiment, c'était trop beau pour que ce soit pour moi, c'était trop beau pour que ça m'arrive, parce que quand on a l'habitude un peu comme ça de la dureté, des événements un peu marquants, on finit finalement par se dire que le simple, le beau, le bonheur, dont tout le monde est à la
rêve.
Recherche, voilà, c'est ça, rêve, merci, c'est pour les autres. Donc du coup, j'ai été exécrable.
Voilà. Vous vous rappelez?
Ah oui.
Mais ça se traduisait comment alors?
Par des colères, par des conflits assez violents, par des mots...
Blessants,
regrettables. Mais oui, par des...
De l'isolement, je pouvais ne plus parler pendant plusieurs jours, je me réfugiais dans le travail.
Vous faisiez tout pour le pousser à bout?
Oui.
Vous avez eu à un moment une réaction plus
oui.
ferme
oui.
Qui a fait basculer votre histoire?
Oui.
Dans quel contexte elle a eu lieu cette rencontre?
C'était une dispute violente au niveau verbal. Et c'était et mon langage à moi ne suffisait pas. N'entendait pas ce que je lui disais quand je lui parlais. Donc j'ai utilisé son langage à elle, qui était un peu physique, mais j'ai utilisé son langage. Parce que
qu'entendez-vous par langage physique?
Je l'ai plaqué sur un mur pour lui faire comprendre, vraiment pour lui expliquer les choses, pour l'apaiser, parce qu'il n'y avait rien à faire d'autre sur le moment, je n'ai rien trouvé d'autre. Et je lui ai dit que ça ne servait à rien de tout vouloir casser, qu'on allait continuer, que j'allais m'accrocher jusqu'à ce qu'on y arrive, qu'elle comprenne qu'on pouvait arriver à faire quelque chose ensemble, et qu'il ne fallait pas qu'elle essaye de tout détruire, à vouloir partir, casser en permanence. Donc, et là, ça a vraiment été radical.
Vous étiez très amoureux.
On peut dire ça.
Bah, vous aussi, hein, visiblement. Puisque de ce jour-là, la rebelle s'est calmée.
Oui. En fait, c'était aussi un témoin de ce qu'il était capable de faire, parce que j'avais besoin d'assurer mes arrières. Moi, je voulais pas de mauvaises surprises. Hein. Je voulais pas donner tout mon amour et tout ce dont je suis capable. Et je sais que je suis capable d'aimer énormément. Sans avoir l'assurance qu'un jour, il ne ferait pas ce que les autres ont fait à ma mère, hein, c'est-à-dire frapper, me manquer de respect, m'aimer de cette façon-là. Alors j'ai cherché une réponse dans la violence, et le plaquage avec « qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi les conneries ?» J'ai senti qu'il était au bout de ses limites, qu'il était lui au maximum de ce qu'il serait capable d'endurer, mais aussi qu'il était au maximum de sa réponse violente.
Cela veut dire qu'il n'irait pas plus loin que ça?
Et ça m'a totalement rassurée. J'ai été désarmée par ça, mais j'ai été confortée dans l'idée que voilà, maintenant je pouvais me poser. Clairement, c'était ça.
Ça vous a libéré?
Complètement. Mm-hmm. J'étais sûre que je pouvais me faire confiance et lui faire confiance. Donc j'ai ouvert. Ça a mis 2 ans, mais j'ai ouvert.
À 28 ans, Danielle sait désormais qu'elle peut faire confiance à un homme, mais tout n'est pas réglé. Elle souhaite fonder une famille, mais avant de devenir mère, les mystères liés à sa propre naissance refont violemment surface. Danielle doit répondre à ses questions restées en suspens et identifier son père une bonne fois pour toutes. C'est lors d'une analyse que sa thérapeute lui donne un conseil qui va tout changer.
Elle essaie de comprendre pourquoi il n'y a jamais eu de réponse. Et elle me propose peut-être de créer un espace-temps privatif, neutre, avec ma mère. Donc elle me fait une proposition qui est « Et pourquoi n'inviteriez-vous pas votre maman au détour d'un week-end lorsqu'elle vient vous visiter à Bordeaux, dans un endroit comme un restaurant, une brasserie ?» Elle m'explique qu'en fait, dans un endroit tel que celui-ci, assez rempli, voilà, en présence de plein de monde, elle sera obligée. Clairement, de surmonter la vague d'émotions que ça pourrait ouvrir, que ce soit de la colère, que ce soit du chagrin, peu importe, parce qu'on ne connaît pas l'origine de... Enfin, moi, je ne connais rien de l'origine de ce silence. Donc, je suis un peu perplexe sur l'efficacité de la solution proposée. Mais voilà, je me suis dit, bon, c'est pas grave, hein, j'ai le droit d'essayer.
Ouais. Vous essayez, donc. Vous l'appelez
ça. Je l'appelle, elle vient passer un week-end à Bordeaux, etc. Ouais. Et puis, je lui dis, oh, bah, tiens, regarde, on pourrait aller se prendre un petit café dans une brasserie, voilà, plein centre-ville. Donc j'ai choisi un endroit où en effet il n'y a pas trop d'échappatoire. Même pour aller aux toilettes, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Et puis on y va pour prendre un café.
Et comment ça se passe alors?
Eh bien, forcément j'étais dans un état un peu stressé. Et je lui dis, écoute, tiens, regarde, pendant qu'on est là, j'aimerais bien qu'on aborde un sujet. Moi j'aimerais qu'on discute de mon père. Alors j'essaie plutôt d'amener ça comme étant, est-ce qu'au moins tu as des photos? Est-ce que peut-être tu as une lettre? Est-ce que peut-être il y a des éléments que tu m'as jamais donnés? Mais je ne la mets pas tout de suite au pied du mur. Et puis quand elle me dit non, il n'y a pas de photo, etc. Je sens qu'elle a envie d'aller plus loin, mais en même temps, je sens que c'est vraiment quelque chose qu'elle a toujours eu du mal à dire. Donc je sens bien que c'est compliqué. Mm-hmm. Je dis, mais moi, je veux savoir. Je lui dis, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi, j'essaie de faire ma vie avec François. Et que si je décide de faire ma vie avec cet homme-là, ça veut dire aussi que je vais décider de fonder une famille avec cet homme-là. Et moi, j'ai besoin, avant d'avoir des enfants, d'avoir un minimum de réponses. Il faut que tu comprennes ça. C'est que voilà, maintenant, je suis en âge de pouvoir avoir ces éléments-là pour pouvoir construire ma vie de femme. Et ça, je pense que c'est quelque chose, un argument que j'avais jamais avancé. Et du coup, ça fait appel aussi à son cœur de femme, pas simplement à un cœur de maman qui protège, vaille que vaille. Et probablement, c'est ce qui a résonné en elle.
Donc, elle vous raconte quoi ?
Elle me dit, tu ne vas pas aimer. C'est la première chose qu'elle me dit, en fait. Tu ne vas pas aimer ce que je vais te raconter. Mais elle me dit, moi non plus, je ne vais pas aimer te raconter ce que j'ai à te dire. Et donc, elle m'explique qu'elle était en effet une femme mariée qui travaillait dans des caves à champignons pour pouvoir avoir un peu plus de revenus financiers pour pouvoir faire vivre cette ferme. Et elle s'est pris d'amitié pour un jeune homme, Fernando, qui avait le même âge qu'elle, qui venait du Portugal, en fait, qui venait travailler en France, comme à l'époque, ça se faisait beaucoup, il y avait ces mouvements migratoires, il y avait beaucoup de Portugais qui venaient travailler en France, beaucoup de personnes des pays limitrophes. Et puis, elle me raconte qu'un soir, elle est invitée à venir se joindre à une fête, etc. Et qu'il se donne un rendez-vous à Saumur, dans la ville où il habitait. Il habitait à cette époque-là, lui, ce jeune garçon, chez sa sœur, avec sa sœur et son beau-frère, le mari de sa sœur. Mmh. Et donc, ma mère les a rejoints en mobylette à l'époque. Ils se sont donné rendez-vous au pied de l'immeuble où la sœur de cet homme habitait. Et puis, elle arrive. Et en fait, il est alcoolisé. Il est avec son beau-frère, le mari de sa sœur. Et en fait, lorsque ma mère les rejoint, la situation change brutalement et devient pour elle un cauchemar. Elle est attirée dans la cave, probablement peut-être pour aller ranger sa mobylette ou pour passer à l'intérieur et rejoindre l'appartement, on n'en sait rien. Et elle est à ce moment-là maintenue par le beau-frère de Fernando et violée par Fernando dans cet endroit, dans la cave de cet immeuble. Dans mon idée, à ce moment-là, j'ai compris que tout ce que j'avais fantasmé jusqu'alors, tout, j'ai pensé à tout un tas de solutions, j'ai pensé à tout un tas d'excuses. Moi, j'ai même un peu jugé ma mère à cette époque en me disant « je suis sûre que c'est un adultère ». Ça me semblait justifier un peu la gêne, la honte d'en parler. J'étais à 3000 lieues, bien plus encore, d'imaginer cette horreur, en fait. Et lorsqu'elle me livre ça, je rappelle qu'on est dans une brasserie, bondé, en plein moment d'influence. Moi, j'entends plus rien, je ne vois plus rien. Je suis totalement dans un état de traumatisme, en fait. Et là, je ressens une déflagration assez incroyable.
Lorsqu'elle vous raconte ça, elle...
Elle se libère.
C'est une libération pour le point.
Elle se libère. Ouais. Je vois son visage se transformer au fur et à mesure qu'elle me parle. Je vois, et dans ses mains que je tiens, et dans son visage, dans ses épaules qui se baissent, qu'elle se libère vraiment.
Ouais.
Elle se libère d'un poids, et elle sait qu'en faisant ça, elle me charge de ce poids, en fait. Elle le sait. Je sais qu'elle y met des précautions, elle y met des mots, des attitudes bienveillantes, parce qu'elle sait que ça y est, elle m'a chargée de ça, en fait. Parce qu'elle sait que de toute façon, maintenant, plus jamais ça va me quitter. Et elle sait aussi que maintenant, je vais pouvoir commencer à construire, faire un travail de deuil de tous ces fantasmes et commencer à construire une vie, alors qui va s'avérer encore bien difficile, mais une vie avec au moins déjà un début d'histoire. Et quand on commence à comprendre qu'on est né de cette addition-là, le démarrage est un tout petit peu compliqué quand même. Je me suis sentie aussi un peu coupable d'avoir quand même été pressante toutes ces années parce que j'ai compris à l'instant même où je lui tenais les mains, où elle me disait ça, qu'elle avait vraiment usé d'un sens de protection à mon égard infini et qu'elle ne livrait ça aujourd'hui que parce qu'elle me pensait capable de gérer ça et de travailler sur ça.
La mère de Daniel lui raconte alors la suite de son histoire. Les jours qui suivent ce viol, Béatrice est traumatisée. Elle pleure pendant des jours et pense ses blessures toute seule, sans rien dire à personne. Puis après 2 semaines d'arrêt maladie, où elle cache la vérité à son mari, elle doit reprendre le travail avec la peur de recroiser son bourreau.
Et ce qu'elle m'explique, c'est que Fernando a été aussi absent pendant ces 15 jours-là, en fait. Que lui non plus n'est pas venu travailler. probablement il a cheminé sur,
ce qu'il a fait.
La conscientisation de ses actes un peu. Et ils se sont retrouvés en même temps à reprendre le travail tous les deux. Et ils se sont recroisés forcément. Et Fernando est venu pour discuter avec ma mère. Et ce qu'elle m'apprend, c'est que cet homme, du haut de sa vingtaine d'années, s'excuse, pleure comme un bébé et s'excuse. Lui demande pardon pour ce qu'il a fait. Donc je sens que ma mère, quand elle me raconte ça, elle tente plus de me convaincre que c'était important d'entendre ça et que c'était important d'accorder son pardon. Elle lui a accordé son pardon.
Vous pensez que c'est ce qui amène votre mère à ne pas porter plainte contre lui ?
Non, je pense que ma mère, de toute façon, ne l'aurait pas fait. Parce que ma mère est dans une situation où elle est une femme mariée. Et je pense qu'à cette époque-là, on est dans les années 70, aller voir un service d'ordre public et expliquer qu'elle s'est fait violer alors qu'elle est une femme, qu'elle travaille dans une cave à champignons et qu'elle se rendait chez des amis faire la fête, je pense que c'est des choses qu'elle n'aurait pas forcément fait. De la même façon que moi, je lui ai demandé à un moment donné, quand on est revenu, mais pourquoi tu n'as pas mis fin à cette grossesse ? Pourquoi tu ne t'es pas fait avorter ? Voilà. Elle me disait, je ne pouvais pas. Sauf que l'arrivée de cet enfant va aussi changer toute sa vie. Elle est obligée de faire face à un mari qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc imaginez bien que...
Et qui le sait.
Voilà. Elle m'a dit qu'à la seconde où elle a su qu'elle était enceinte, elle a aimé cet enfant, quel qu'il soit. Elle ne m'a jamais tenu rigueur. Voilà. Moi, je prends conscience que probablement, tout au long de ma vie, moi, je lui ai rappelé cet homme. Je lui ai ramené une partie de cet héritage constitutionnel, forcément, par ma façon d'être et sans aucune... stratégie, parce que moi je ne sais pas tout ça. Mais je me dis, mais quel courage et quel amour il a fallu quand, à l'époque où nous nous confrontions, où moi je pouvais être très blessante, il a fallu qu'elle prenne sur elle, hein, parce que je vais probablement rappeler dans la violence de mes actes et de mes mots, la violence de mon père à ce moment-là.
Mais j'ai envie de vous dire que vous ne portez en rien la responsabilité de ce qui s'est passé dans cette cave.
Mais je prends la dimension de son amour. Hein.
Mais voilà, elle vous a désiré.
Oui.
Une fois le secret dévoilé, Danielle doit encaisser cette nouvelle. Elle n'en parle qu'à François et à Stéphane, son petit frère. C'est à cette occasion qu'elle a la surprise de découvrir que celui-ci connaissait la vérité bien avant elle, et ce, depuis l'âge de 14 ans. Une vérité bien lourde à porter pour un adolescent.
Je l'ai appris lors d'une séance chez un psy, en fait, et c'est ma mère qui a lâché le truc... pendant la séance, en fait, qui m'a dit la vérité sur les origines de ma sœur.
Comment a-t-elle formulé ça, en fait, si vous en avez un souvenir?
Alors, on discutait donc de mon père à moi et de mes difficultés de communication avec mon père. Et du coup, on est arrivé sur ma sœur. Et puis, elle a lâché en disant que, de toute façon, ma sœur, mon père n'était pas son père et qu'elle avait été violée et que c'est comme ça que ma sœur était née.
D'accord.
Voilà, ça a été dit comme ça, en fait.
Et dit comme ça, je suppose que pour un adolescent de 14 ans, ça devait être d'une violence terrible.
Ah oui, c'est à tel point que moi ça m'a bloqué, moi vraiment. Ça m'a anéanti, quoi. Enfin, de mêler ma mère à ce genre d'image, ce qui est un viol, hein, en gros, quoi. Non, c'était pas possible, ça, pour moi. C'était trop, là, pour le coup.
C'était quelque chose qui vous a fait souffrir aussi ?
Oui, incontestablement, ça m'a fait souffrir aussi, oui, c'est sûr. Beaucoup moins que ma sœur, mais si, quand même. Moi, je pensais que mon père était son père aussi.
Ce qui veut dire qu'on vous a entretenu dans le mensonge ?
Oui, aussi, moi aussi, ouais.
Or, vous ne lui en parlez pas ?
Non, c'était pas mon histoire non plus, donc je voulais pas non plus m'immiscer dans quelque chose d'aussi lourd. Pour moi, ça regardait ma sœur et ma mère, et puis j'ai ressenti tellement de mal, en fait, pour ma sœur. Et je comprenais, du coup, il y a des choses que je comprenais sur elle, sur son mal-être, sur le rapport conflictuel aussi qu'elle entretenait avec ma mère. J'ai commencé à comprendre vraiment à ce moment-là pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi c'était aussi compliqué entre elles. Parce qu'à l'origine, il y avait vraiment une histoire lourde. Mmh. Et puis moi, j'aurais dit quoi ? J'aurais dit ce que je sais, ce que ma mère m'a lâché pendant cette séance.
Ouais.
Mais toutes les questions derrière, je n'aurais pas été capable d'y répondre.
Ouais.
Et ça se trouve, j'aurais laissé plus de vide ou de doute dans la tête de ma sœur qu'autre chose.
En tout cas, votre maman et vous n'en avez jamais reparlé ?
Non.
D'accord.
Jamais.
Quel est votre regard sur ça, sur le secret de famille ? Parce que vous avez vécu en plein dedans.
J'ai pas compris tout de suite pourquoi ma mère mettait, avait autant de difficultés à le dire à ma sœur. Je comprenais pas ça, en fait. Je me disais pourtant, pour la construction de ma sœur, ça serait tellement plus simple. Mm-hmm. Ça m'était vraiment mal à l'aise par rapport à ma sœur. Il y avait comme un déséquilibre, en fait, entre nous. Mais en même temps, moi, j'avais des rapports conflictuels avec mon père. On s'est pas vu pendant des années. Donc on est un petit peu pareil quelque part. J'ai peut-être volontairement aussi entretenu un mauvais rapport avec mon père pour être
proche de votre
proche de ma sœur et à un niveau égal d'elle.
Mm-hmm. Bon, mais aujourd'hui, cette grande sœur, alors...
Elle est super.
Mais ouais.
Elle est géniale. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que je soutiens beaucoup et que je soutiendrai quoi qu'il arrive. Je serai toujours là. Et d'ailleurs, elle a toujours été là pour moi. Donc, moi, je suis là aujourd'hui pour elle.
Ouais.
C'est ni plus ni moins que ça. Et je compte bien l'accompagner jusqu'au bout de cette histoire pour elle, pour sa construction et puis pour son bien-être à elle et puis sa tranquillité d'esprit, quoi.
Danielle a mis du temps à surmonter le choc, mais elle a pardonné immédiatement à sa mère, avec qui elle s'est finalement rapprochée jusqu'à son décès en 2004. Malgré ce qu'il a fait, Danielle veut retrouver son père biologique coûte que coûte. Pour cela, elle a décidé de mener une enquête et a engagé une journaliste d'investigation. Pour l'instant, aucune piste n'a abouti, ni en France, ni au Portugal. Je me demande dans quel état d'esprit Danielle fait ses recherches et si elle en veut à cet homme.
Moi, je me sens prête à aimer cet homme. Son acte répréhensible lui appartient. J'ai très vite fait le tri, et tant mieux, parce que c'est ce qui m'a permis de reprendre mon souffle et de repartir en avant. Ses conditions de naissance sont les miennes, c'est une certitude. Mais ce rendez-vous dans cet endroit-là appartient à ma mère et Fernando. Elle appartient à leur histoire. Mmh. Et ça, c'est quelque chose dans lequel moi, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à voir. Je résulte de ce qui s'est passé, de ce viol, mais je n'ai, vis-à-vis de ma mère et vis-à-vis de mon père biologique, aucun ressentiment. J'ai juste de l'amour. Ils sont mes parents. Mmh. Et moi, j'ai donc, et c'est réconfortant, un père et une mère aujourd'hui qui sont identifiés tous les deux comme ayant été à ce moment-là, en tout cas, à l'origine de ma naissance. En fait.
Aujourd'hui, vous ne l'avez toujours pas retrouvé ?
Non.
Vous espérez toujours le retrouver ?
Au fond de moi, oui, il y a toujours la petite fille,
ouais,
qui souhaite toujours retrouver son papa, oui.
Mm-hmm.
Son père.
Qu'est-ce que vous lui diriez à cet homme si vous le retrouviez aujourd'hui ?
Bah, qu'il serait le bienvenu dans ma vie, forcément, que je l'accepte comme il est, et que j'espère qu'il acceptera aussi tout ce que je suis, comme je suis.
Donc ça veut dire que vous lui avez pardonné ?
Ah oui, totalement.
Et votre maman n'étant plus là aujourd'hui,
non.
Vous avez envie de dire à votre père, coucou, je suis là,
ouais.
J'existe.
Ouais.
L'histoire de Danielle lui a permis de réfléchir sur le mensonge et le secret de famille. Aujourd'hui, ses enfants connaissent son parcours. Elle a décidé de se livrer publiquement pour la première fois, pour se libérer définitivement de ce secret.
Toute vérité est bonne à dire. Par contre, toute vérité a sa temporalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener les choses un peu comme ça, brutalement, on peut surtout préparer et amener la personne à finalement prendre des éléments, les uns après les autres, et un jour décider que finalement le temps est venu pour le faire dans des conditions les plus sereines possibles, parce que tendre la main et transmettre un relais, ça doit se faire, à mon avis, dans la douceur, dans l'accompagnement, dans l'explication, et dans, avec ce relais et toute l'histoire que ça contient, je te transmets aussi les clés pour continuer toi à cheminer. Moi, je pense que les secrets de famille ne servent qu'à entretenir comme ça une sorte de pression, une sorte de malaise, une sorte d'étouffement, parce qu'on étouffe dans une vie où il y a un mensonge. Moi, je stoppe aujourd'hui un processus de secret. Il n'y a plus de secret. Et tous ceux qui prendront connaissance de ça dans ma famille, dans mon entourage, dans nos proches, verront ça, comprendront ça. C'est sûr que là, le secret se termine ici aujourd'hui.
Danielle m'a confié avoir trouvé le bonheur en elle. Si son histoire a été plus que douloureuse, au final, tout ce cheminement vers la vérité lui a permis de se libérer et de s'épanouir enfin.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation, Kevin Oustier. Diffusion, Héloïse Berthier. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.